Radio Kapi.
Les informations, Noëlla Luzitu Kabambi.
Le chef de l'État congolais a tenu devant les députés et sénateurs réunis en congrès au Palais du Peuple à Kinshasa son discours sur l'état de la nation, le social, l'économie, la politique ainsi que la sécurité. Félix Tshisekedi a fait pendant près de deux heures ce mercredi 11 décembre l'évaluation en général des différents domaines de la vie en RDC. Malgré les défis qui restent à relever, le président de la République s'est félicité des progrès réalisés durant la première année de son deuxième mandat. Dixième jour ce mercredi, des affrontements entre les FARDC et le M23 soutenus par le Rwanda au sud du territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Après avoir perdu certaines de ses positions, le M23 a lancé une contre-offensive, notamment à Luofu et Kaseye, non loin de Lubero Centre. Professeur David Lubo est l'invité de ce journal. Le président de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa soutient que cette association n'est pas en grève, car satisfaite de la réaction du gouvernement, alors que le Rassemblement des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo vient, lui, de déclencher une grève pour non-respect par le même gouvernement du protocole d'accord de Bibwa. Bonsoir à tous. Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme sa détermination et sa volonté de continuer à servir le peuple congolais en assumant ses fonctions de commandant suprême des forces armées et de garant de la nation. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État a passé en revue toute la situation qui prévaut à RDC, de l'économie à la politique en passant par le social, la santé, le sport et la sécurité. Le président de la République s'est félicité aussi des progrès réalisés durant la première année de son deuxième mandat, tout en reconnaissant qu'il y a encore des défis à relever, comme par exemple la problématique des embouteillages à Kinshasa. Michel Kifindangoy.
Dans son discours magistral et martial de plus d'une heure et trente minutes, le chef de l'État a présenté toutes les réalisations avec chiffres à l'appui depuis son investiture en janvier dernier. Sur le plan économique, le président de la République s'est félicité du taux de croissance qui dépasse la moyenne africaine, mais il s'est dit conscient du défi de la perte du pouvoir d'achat des Congolais. La réduction du prix du carburant à la pompe, l'allocation des moyens conséquents pour des secteurs producteurs de richesses et la création des emplois pour les jeunes sont parmi les mesures efficaces pour faire face à ce défi. Félix-Antoine Tshisekedi dit faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie nationale. Pour lui, le budget 2025, qui sera bientôt adopté au Parlement et promulgué par lui, accorde des moyens conséquents pour les secteurs sociaux de base, comme la santé et l'éducation. Il invite à cet effet le peuple congolais, en particulier la jeunesse, à prendre son destin en main pour s'engager dans les efforts de développement de la RDC. Le garant de la nation annonce une politique de tolérance zéro pour les criminels et toute pratique qui freine le développement du pays. Félix-Antoine Tshisekedi s'est aussi exprimé sur la situation sécuritaire et les réformes constitutionnelles en vue.
S'agissant de la situation sécuritaire justement, le président de la République s'est dit déterminé à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Il a manifesté sa solidarité aux victimes, estimant que les efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Félix Tshisekedi est dans cet extrait choisi par Martin Sebujangwe.
Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate.
Le président Félix Tshisekedi invite par ailleurs les Congolais à s'engager dans une réforme constitutionnelle. Cette démarche consiste, je cite, uniquement à lancer une initiative visant à inviter les compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Félix-Antoine Tshisekedi.
Cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique.
Direction le Nord Kivu. Pour le 10e jour consécutif, les FARDC affrontent les combattants du 1-23 soutenus par le Rwanda dans des combats intenses dans le sud du territoire de Lubero. Après avoir perdu certaines de ses positions, le 1-23 a lancé ce mercredi une contre-offensive faisant deux villages de Luofu et Kassé à 60 km de Lubero centre, le théâtre des violents affrontements. Depuis Beni, Martial Papimukeba.
Jusqu'à l'après-midi de ce mercredi, les lignes de combat n'avaient pas bougé après des violents affrontements à Kasséé, un point stratégique pour les rebelles du M23 avant d'atteindre la commune rurale de Kirumba, toujours sous leur occupation. Les M23, renforcés depuis la veille, en hommes et en matériel, a attaqué de nouveau Luofu. Certaines sources évoquent la réoccupation de la localité par les rebelles, mais des sources militaires ne confirment pas encore cette information. Elles affirment que l'armée a repris le contrôle de Matembe, un secteur auparavant partagé entre les FARDC et les M23, et a délogé les rebelles des villages de Katwa et Kimaka. La situation demeure extrêmement tendue dans les sites de Lubero, où les M23 continuent de se renforcer dans la zone de combat. Il est difficile de localiser précisément les positions des FARDC et des rebelles, et certains acteurs expriment des craintes concernant une possible dégradation de la situation. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans l'ouest du pays, la situation sécuritaire reste préoccupante ces derniers jours dans la région de Grand Bandundu à la suite des exactions commises par la milice Mobondo. Dans la nuit de lundi à hier mardi, les miliciens ont fait incursion dans une ferme située non loin des villages Massiakwa et Aviation dans le territoire de Kwamuto Maindombe. Ils y ont carbonisé près de 12 personnes. Dans la même nuit, ils ont attaqué aussi le village Ipuka dans le territoire de Popokabaka au Kwango. Après de violents affrontements avec l'armée, au moins 8 de ces insurgés ont été tués par les FARDC. L'armée loyaliste dit avoir intensifié les opérations dans ces coins pour mettre fin à cette insécurité. Le porte-parole de l'opération Ngemba de la 11e région militaire du Grand Bandundu, capitaine Anthony Mwalushai, le dit au micro de Irène Mbomaluzolo.
Dans les territoires de Popokabaka, les insurgés Mobondo occupent le village Ipuka. Dans la nuit du lundi à mardi 10 décembre 2024, l'armée loyaliste a mené les opérations au village Ipuka et a neutralisé 8 Mobondo et capturé 2, parmi eux un blessé, récupéré également 5 armes. Du côté de l'armée républicaine, un soldat a été blessé. L'ennemi qui est en fuite en ce moment a trouvé refuge au village Ipungi et nos éléments sont en train de le poursuivre pour les neutraliser totalement. Sur l'axe Kwamuntu-Bakata, un groupe des insurgés Mobondo a attaqué dans la nuit du lundi à mardi une ferme non loin du village Massiakwa où ils ont attaqué la population civile et calciné ainsi 12 compatriotes. Parmi eux, 4 enfants, 4 femmes et 4 jeunes hommes. 6 compatriotes ont réussi à s'échapper et se sont retirés avec des graves brûlures.
En plus bref, de la province du Maniema, nous venons d'apprendre qu'une incursion des Maïmaï Yakutumba au village Luiku a fait 5 morts et le déplacement massif des habitants. Un bilan encore provisoire de cette attaque menée ce mercredi 11 décembre dans ce village situé à plus de 100 km de Kabambare Centre. Le député provincial élu de Kabambare qui donne l'information appelle à l'intervention urgente des autorités pour mettre fin à cette insécurité. Cette information sur l'incursion des Maïmaï Yakutumba dans le territoire de Kabambare n'est pas encore confirmée par les autorités des FARDC dans le Maniema. Dans un nouveau rapport intitulé « Opération Keba », Amnesty International soutient que des hauts responsables de l'armée congolaise doivent faire l'objet d'enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité commis dans le cadre du massacre de Goma. Allusion faite à la répression le 30 août 2023 à Goma, dès l'une des manifestations appelant au départ de la MONUSCO. L'ONG internationale exige la fin de l'impunité dont jouissent encore les présumés auteurs, notamment certains officiers FARDC. Amnesty a vulgarisé ce mercredi son rapport à travers une conférence de presse virtuelle. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
L'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, général Constant Ndima et deux autres hauts responsables de l'armée doivent être enquêtés pour des crimes présumés contre l'humanité lors de la répression d'une manifestation à Goma le 30 août 2023, déclare Amnesty International. Selon son rapport, au moins 56 personnes ont été tuées illégalement et plus de 80 ont été blessées. Le rapport démontre que les forces de sécurité se sont livrées à une folie meurtrière, ouvrant le feu sur des manifestants qui demandaient le départ de la MONUSCO. La plupart des manifestants étaient des membres du groupe politique religieux nommé Foi naturelle messianique judaïque pour les nations, dont les adeptes sont également appelés Wazalendo. Le rapport d'Amnesty identifie 3 officiers de l'armée, outre Constant Ndima, le colonel Mike Mikombe Kalamba, ex-commandant de la brigade interarmée de la garde républicaine, et le major Peter Kabouengandou. Le président Félix Tshisekedi doit suspendre immédiatement tous ses officiers. Le département des opérations de paix de l'ONU doit ouvrir une enquête indépendante sur les faits et en rendre les conclusions publiques, recommande l'ONG.
Parlons santé toujours au Nord Kivu. Notez que la ville de Goma dispose désormais de sa première unité de production d'oxygène médical. Construite à l'hôpital provincial du Nord Kivu, elle a été remise officiellement ce mercredi aux autorités provinciales par le représentant adjoint de l'OMS en RDC. D'une capacité de production de 4000 kg d'oxygène toutes les 8 heures, la construction de cette unité a coûté un peu plus $1,5 million. Elle est placée sous la gestion de l'hôpital provincial pour faciliter le ravitaillement des hôpitaux de la région des Grands Lacs en oxygène médical à un coût réduit, a souligné le donateur qui est l'OMS. L'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et le droit de l'homme, IBGDH, dénonce ce qu'elle qualifie de violation de droits de l'homme de la part des banques commerciales installées à Kolwezi dans le Lualaba. D'après l'enquête qu'elle a menée, le dysfonctionnement de ces banques empêche souvent les travailleurs d'accéder à leur salaire à temps. À l'approche des festivités de fin d'année, l'IBGDH leur recommande d'améliorer et surtout d'humaniser les conditions pour permettre à chaque client de disposer de son argent au moment voulu. Donna Kambola, coordonnateur de l'Initiative pour la bonne gouvernance et le droit de l'homme, est joint par Jean Gandou.
IBGDH a mené une enquête sur les rapports entre les banques commerciales installées à Kolwezi et les travailleurs des entreprises minières. Il s'agit clairement de regarder la question du traitement des travailleurs par la banque. Nous avons constaté que les banques violent la liberté des travailleurs à disposer de leur rémunération selon leur gré à cause des dysfonctionnements des distributions automatiques, surtout pour la période qui va du 25 au 10 de chaque mois. Les espèces sont insuffisantes au niveau des guichets automatiques, les mauvais accueils au niveau de banque, l'inconfort qui caractérise les salles d'attente avec des longues files d'attente pour les travailleurs qui prennent beaucoup de temps à accéder à leur rémunération, ce qui est une violation des droits de l'homme. Nous recommandons aux banques d'améliorer leur accueil, mais surtout de disponibiliser de l'argent, de la rémunération des travailleurs en temps convenu, parce que les banques sont payées pour ces services-là et il est important que les banques améliorent leurs services.
Dans l'enseignement supérieur et universitaire, parlons de cette situation confuse dans les institutions publiques. Certains syndicats des enseignants, notamment, ont appelé à une grève générale. Ils accusent le gouvernement de ne pas respecter les accords signés à Bibwa en 2023. Dans ce camp, on trouve le RAPUICO, réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. D'autres, par contre, disent ne pas soutenir ce mouvement de grève. Cas de l'APUICIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa. Et cette confusion se ressent aussi sur le terrain, sur les sites universitaires. Un reportage de Blaise Chindani, Grasson Vuezolo et Babel Mpongo.
Sur terrain, sur les sites universitaires, on se retrouve face à deux situations. À l'Académie de Beaux-Arts, par exemple, c'est la grève sèche du côté des professeurs. Seuls quelques chefs de travaux et assistants sont présents et s'occupent uniquement des classes de recrutement. À l'Unistiquex, IFASIC, les cours se donnent, mais certains enseignants observent tout de même le mot d'ordre de grève. Du côté des grévistes, le professeur Jean-Colin Moussonda, coordonnateur de RAPUICO, explique certaines de leurs revendications.
Payer l'accroissement de 50% sur la prime institutionnelle des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, payer les 5 mois complémentaires dus en 2023. Le gouvernement vient de payer 3 mois, produire la nouvelle grille barémique, mécaniser les nouveaux docteurs à thèse et payer les professeurs aux grades actuels.
De son côté, le professeur David Loubo de l'APUCIN explique pourquoi eux ne sont pas en grève.
Un pas significatif a été fait. Par exemple, à court terme, nous attendions la paye complémentaire. Elle a été faite de 3 mois. Nous attendions la commission de suivi. Les membres de cette commission-là sont déjà payés et d'un moment à l'autre, on va la convoquer. Et c'est cette commission qui est là pour suivre tous les accords de Bibwa et qui va épiloguer sur les nouveaux barèmes.
Cette situation confuse intervient environ 3 semaines à peine après le début effectif des cours pour la nouvelle année académique.
Actualité internationale.
L'état-major de l'armée nigérienne a tenu ce mercredi une réunion d'urgence autour du chef des armées, le général Moussa Salahou Barmou, après la mort hier d'une centaine de soldats dans un combat contre des djihadistes dans le département de Tera. Une cinquantaine de civils ont également été tués dans cette fusillade. À la suite de cette hécatombe, les autorités ont aussi organisé dans la journée ce mercredi des obsèques symboliques de 10 militaires en hommage à tous ceux qui sont tombés dans cette attaque la plus meurtrière survenue au Niger depuis 6 mois.
L'invité.
L'association des professeurs de l'université de Kinshasa n'est pas en grève. Le professeur David Loubo le dit dans une interview exclusive à Radio Okapi. Pour lui, le gouvernement est en train de répondre favorablement aux désidératas des professeurs, alors que le RAPUICO, Rassemblement des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, vient lui de déclencher une grève car selon lui, le gouvernement n'a pas respecté le protocole d'accord des Bibwa conclu entre le banc syndical et les délégués du gouvernement. Mais pourquoi les professeurs ne parlent pas le même langage? Que doivent attendre les étudiants quand les professeurs eux-mêmes sont divisés? Suivez le professeur David Loubo, président de l'APUCIN, dans cet entretien avec Blaise Chindani Kambala.
Bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste Blaise.
Les enseignants et personnels membres du RAPUICO sont en grève. Est-ce que c'est le cas pour ceux de l'APUCIN aussi?
Non, l'APUCIN n'est pas en grève.
Oui, ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas dans leurs revendications. Le RAPUICO demande le respect du barème, les véhicules pour ceux qui ne sont pas encore servis, le paiement selon les grades de certaines catégories de professeurs. Beaucoup de docteurs à thèse, par exemple, ne sont jamais payés depuis plusieurs années. Selon vous, le gouvernement a déjà satisfait à toutes ces revendications?
Non, dire qu'on a satisfait à toutes ces revendications, je serais menteur. Mais un pas significatif a été fait. Par exemple, à court terme, nous attendions la paye complémentaire. Elle a été faite de 3 mois. Toujours à court terme, nous attendions la commission de suivi. Eh bien, les membres de cette commission-là sont déjà payés et d'un moment à l'autre, on va la convoquer. Et c'est cette commission qui va épiloguer sur les nouveaux barèmes. Donc, le barème ne va pas se donner avant la commission qui est là pour suivre tous les accords de Bibwa. Par rapport aux véhicules, je crois que une délégation s'est séjournée outre-mer pour voir la faisabilité, la performance, la qualité, la tropicalisation. La délégation est déjà rentrée. Bientôt, on va formaliser par un contrat. Donc, là aussi, c'est un peu à moyen terme parce que les véhicules, on ne peut pas les commander aujourd'hui, l'avoir aujourd'hui. Donc, par rapport à la correction des grades, oui, ils peuvent avoir raison, mais ce sont des dossiers individuels et il y en a qui sont corrigés, mais il faut que l'individu vous dise que lui, on a corrigé, mais très souvent, ce sont des dossiers individuels. La migration des nouveaux docteurs, pour ceux de l'UNIKIN, par exemple, nous avons pris rendez-vous avec les détails du cabinet du ministre du Budget. C'est un dossier très avancé, mais les amis ne peuvent pas croire que lorsqu'on paye les de 2022. Mais chacun est payé au grade qu'il avait en 2022. Donc c'est maintenant qu'on cherche à les payer dans leur nouveau grade. Et d'ici janvier, cela sera fait. Voilà ce que je peux dire. Tous les restes, là, je considère ça comme de logomachie.
Oui, mais professeur, est-ce que vous ne vous concertez pas entre vous? Parce que là, c'est vraiment pas normal que
oui,
les uns
bien.
Soient en grève, les autres continuent à travailler.
Nous nous concertons. Vous avez posé une question très intéressante. Nous nous concertons. Il y a eu des divergences, mais ce n'est pas qu'on ne se concerte pas. Nous avons tenu la première réunion ici, au siège même de la Pukine, où je me trouve maintenant, avec tous les bancs syndicales. On avait sonné l'alerte pour que le gouvernement accomplisse sa part. Et cette réunion s'était tenue le 22 octobre. Et le 4 novembre, nous avons eu l'état liquidatif de tout ce qu'on demandait comme paye complémentaire. Le 18 novembre, j'ai dit, nous avons eu un DTO. Et le 23 du même mois, on a eu l'OPI. Mais c'est comme ça que la Pukine a dit, tous ces documents qui montrent que le dossier est en train de suivre le cours normal à la chaîne de dépenses ne peuvent pas mener les gens rationnels à quitter la table de négociation. Encore, il faut dire que chaque fois qu'on négocie, même on était en grève, on suspend. Donc, il y a eu concertation, mais il y a eu divergence d'approche. Mais sinon, ce sont les deux associations sœurs. Et vous-même, vous allez voir, bon, qui est sur terrain, ça, c'est un autre problème. Vous n'avez qu'à balader votre micro à travers la ville de Kinshasa, vous allez voir quelle est l'institution qui est en grève, quel est l'établissement qui n'est pas en grève.
Voilà, maintenant que vous êtes divisé, professeur, comment est-ce que ça se passe dans les auditoires? Que doivent attendre les étudiants pour cette année académique qui vient de commencer?
Je ne veux pas parler des autres, mais à l'UNIKIN, il n'y a aucun auditoire qui est séché. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs institutions, c'est comme ça que j'appelle la radio Okapi à faire la ronde.
Pour terminer, professeur, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de devenir le porte-parole du gouvernement au lieu de défendre la cause de vos syndiqués?
Une question assez pertinente. La Pukine a marché en toge et a obtenu les premiers comptes de Bibois. Où étaient ces gens-là? Ils étaient aussi manipulés par le gouvernement. La Pukine a obtenu les véhicules en 2013. Où étaient ces gens-là? Ils étaient aussi manipulés par le gouvernement. La Pukine a fait une grève qui est partie de septembre à novembre 2023 et a obtenu tout ce qu'on paye aujourd'hui. On ne fait pas le porte-parole du gouvernement, mais si quelqu'un peut vous dire le gouvernement a fait ça, 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 et que vous vérifiez, si c'est ça le porte-parole, ça m'étonnerait. Qu'on me dise que j'ai inventé, ces gens qui crient là, est-ce qu'ils n'ont pas touché la commission, l'argent pour la commission, alors que les travaux n'ont pas encore commencé? C'est la question qu'il faut leur poser.
Professeur David Loubo, président de la Pukine, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Noëlla Luzitou l'a présenté dans une mise en onde de Debs et Vita. La coordination est assurée par Richard Junior Kamonga et Jude Bilanda sous la supervision de Martin Sebujangwe.